Bonsoir à toutes et à tous. On commence par les temps qui courent. Tous les soirs, une heure de conversation avec les artistes. Ce soir, c'est avec Hélène Jeannequini.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Hélène Jeannequini.
Mourir est un verbe d'abord impossible à conjuguer pour soi et au présent. Pour comprendre intimement notre finitude, pour sortir des données statistiques, des courbes de mortalité, l'unique possibilité est l'adresse. La seule expérience possible de la mort, c'est vous qui me l'offrez. En apprenant votre décès, je me suis approchée de cet impensable puisque j'ai ressenti le vertige, si bien que quand je dis « tu meurs » ou même « tu es mort », j'éprouve un peu de ce qu'est la mort. En un sens, je meurs pour la première fois. Je cherche précisément ce mourir, cette bascule. J'aimerais ne pas raconter simplement à chacun d'entre vous votre absence, mais aussi votre mort et son temps long. Entre mourir et être mort, il s'est passé des semaines et parfois des années. Vous savez, vous avez été long à disparaître. D'en voir de ses propres yeux, vous vous adressez à vos morts, Hélène Jeannequini, mais aussi à une certaine histoire de la représentation des corps trépassés. Voir de ses propres yeux est un roman, il est paru aux éditions du Seuil. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes donc romancière, vous êtes aussi docteur en littérature. Vous vous intéressez beaucoup au rapport entre les textes et les images. Peut-être certaines se souviennent de ce texte qui était paru sur Alix Cléo-Roubaud, ainsi qu'une exposition qui avait eu lieu à la Bibliothèque nationale de France, au site de Tolbiac. Peut-être que c'est aussi des choses qui vont s'inviter dans notre conversation, car elles ne sont pas sans lien. On commence avec un extrait de votre texte.
Je suis tentée de dire que je me sentais étrange déjà, mais je n'en suis plus certaine. Je veux rester au plus près des événements, ne rien déformer. Les arbres, le TGV vers Paris, oui, je m'en souviens, mais ensuite je ne sais plus. Tout devient confus. Un carnet me permet de reconstituer les faits avec une précision photographique. Impossible pourtant de retrouver un « je » dans ma notation mécanique des événements. 10 jours après mon retour, donc, mon portable sonne à 19h35. Il me faudra plusieurs autres coups de fil, l'entremise d'un lieutenant de police et exactement 9 minutes pour me retrouver face à la nouvelle. Un mort, adoré. Je suis instantanément pulvérisée. Suivent le flou et les démarches, l'institut médico-légal qui tremble avec le métro, la douleur plus grande que mon corps qui doit l'enclore, puis des semaines aveugles et pas très intéressantes, je crois. Les récits qui pleuvent, les anecdotes qui corrompent ma mémoire, une voiture qui roule avec toi, couché et mort, derrière. Puis des mois encore, la respiration qui revient, la fin d'un amour aussi. Cette personne avec qui j'étais à Lausanne, évanouie de ma vie. Les disparitions rendent radicales, forcent à partir et tout remettre en cause. La solitude que je réapprends, les repas pris seul dans un appartement plus étroit, les nuits à tourner dans le grand lit, et un nouvel appel, un autre choc, 2 morts.
Hélène Jeannequini, on entend un extrait de votre texte « Voir de ses propres yeux ». On est à peu près au début, mais c'est au moment où émerge non seulement le récit de ces 2 coups de fil, de ces 2 annonces, et le début d'un temps long, mais c'est aussi le moment où émerge la question de comment on va raconter Est-ce qu'il y a un jeu qui peut exister, qui peut prendre en charge? Alors si vous essayez de vous souvenir, vous, comment vous avez trouvé ce jeu-là qui allait pouvoir parler dans le texte? Il est arrivé comment?
Pour moi, ça a été une évidence que ce texte-là, je devais l'écrire à la première personne. Que la narratrice du roman devait donner quelque chose de son expérience tandis qu'elle la vivait avec toutes ses nuances. Et pour faire ça, il me semblait évident que ça devait être écrit au jeu. La grande question, c'était comment parler aux autres qui peuplent ce texte, c'est-à-dire comment introduire une adresse. Et puisque le livre est aussi parcouru par un « tu », on l'a entendu dans le texte, « tu es mort » ou « tu es mort couché derrière », il fallait un jeu pour que ça soit en regard, pour que ça soit en face-à-face.
C'est une adresse que je disais en introduction être très plurielle, parce qu'à mon sens, elle est évidemment faite ou disparue, quoi, on va dire, avec un X et sans X. Et aussi, il y a une certaine histoire de la pensée, une histoire de la représentation, une histoire de la médecine et de l'anatomie. Est-ce que vous diriez que vous vous adressez à ces deux choses-là, le peuple des morts et le peuple des savants ? Et des savantes.
En tout cas, je fais coïncider quelque chose des morts de la narratrice avec les morts en général. Et ça me semblait important de faire ça parce que je n'ai pas voulu faire un récit de deuil qui soit trop adressé, en fait. Je voulais parler à des morts, peut-être à mes morts, mais à la mort aussi en général. Mmh. Et pour ça, j'ai eu besoin de la distance du savoir, en fait, qui permet de penser.
Et ça veut dire que concrètement, pendant l'écriture du roman, vous étiez aussi à votre place de chercheuse, de docteur en littérature, c'est-à-dire aussi avec ces modes de faire?
C'est plutôt mon rapport aux images, parce que je suis spécialiste des rapports entre texte et images, et j'écris depuis les images. C'est très matériel, en fait. Autour de mon bureau, il y a des images qui s'accumulent, certaines qui sont immédiatement liées au sujet, c'est assez évident, enfin, des photos, des cartes postales, de momies, de portraits du Fayoum, mais aussi d'autres images qui viennent et de manière moins rigoureuse, j'ai envie de dire, ou des images personnelles, des photos de lieux que j'ai pu traverser, des images que je peux découper parfois dans des journaux, et je les affiche. Enfin, j'ai besoin de ces présences-là et j'ai besoin de vivre avec ces images, de les regarder très régulièrement, aussi à un moment de presque plus les voir, mais il y a quelque chose qui se passe. Et à ce moment-là, j'arrive à écrire. Enfin, l'écriture, elle vient vraiment des images.
Et donc, les images, elles tiennent quelle place à la fin dans le texte? Parce qu'il n'y a pas d'images dans ce roman. Il y en a plein, mais je veux dire, elles ne sont pas reproduites, quoi.
Non, c'est comme une architecture secrète. C'est le squelette du livre, en fait, ces images. C'est pour ça que j'ai voulu qu'elles apparaissent quand même en notes, dans les marges du livre, avec l'idée que peut-être le lecteur, s'il avait envie, pouvait prendre son téléphone et googliser en fait les images et les voir. Et c'est vraiment le squelette du livre.
Parce que quand je dis il n'y a pas d'images, en fait, il n'y en a pas reproduites, mais elles sont full. En fait, il y a vraiment plein d'images, des représentations artistiques, même peut-être même d'aller vers ses propres images, d'être disparu. Ça peut être aussi vers ça que nous envoie ce texte. Si on essaye de dire... Qu'est-ce que c'est que ce roman? C'est le roman de quoi? C'est une femme qui vit le temps long de l'apparition des morts ou de la mort?
C'est une femme qui se rend compte, qui vit des deuils multiples et qui se rend compte que la mort a quelque chose à lui donner. Elle se rend compte que de la même manière que les corps morts donnent quelque chose aux vivants, parce que quand ils se laissent ouvrir, ça nous permet de ne pas mourir de l'appendicite, disons. De la même manière, les gens qu'elle a aimés et qui sont morts lui donnent des choses jusque dans leur mort. Et c'est ça, ces deux lignes parallèles, en fait, du livre. C'est essayer de penser et de trouver, bon, sans angélisme, hein, mais ce don de la mort ou des morts vers les vivants. Parce que je crois qu'il y en a un.
Alors, avec un aspect extrêmement pragmatique, j'ai envie de dire, puisque vous parlez des corps ouverts qui permettent de pas mourir de l'appendicite, ben, c'est le don du savoir de ce qu'ils sont. C'est parce que des gens sont morts et qu'on a été les ouvrir, qu'on a pu se rendre compte petit à petit et préciser notre pensée, notre savoir de l'anatomie. Ça, c'est un pan assez important du livre. Vous le soupçonniez en débutant l'écriture du roman?
Pas du tout. Enfin, c'est vraiment une découverte, l'anatomie, pour moi. Je me suis rendu compte de mon ignorance terrible, en fait, en matière d'anatomie. J'ai découvert Vézal, très très tardivement.
Vous nous en dites un mot?
Oui.
Deux mots, quatre mots, mille mots?
Alors Vézal, c'est... Bon, certains diraient que c'est le plus grand anatomiste du monde. En tout cas, c'est un anatomiste de la Renaissance qui a produit un des plus grands traités qui soit, qui est La fabrique du corps humain, qui est paru en 1543. Et il a fait une chose complètement folle, Vézal. C'est avant lui, les métiers de l'anatomie et de la médecine étaient séparés. Disons, il y avait d'un côté... un barbier ou un boucher qui ouvrait, qui découpait le corps mort, quelqu'un qui présentait ce corps ouvert et le médecin qui ne touchait pas du tout le cadavre et qui expliquait ce qu'on était en train de voir. Et Vézal, il est médecin et il dit, moi j'en ai assez de cette répartition, je vais descendre dans le théâtre anatomique, je vais ouvrir moi-même le mort. Et c'est complètement fou de faire ça. Et ça veut dire aussi que Vézal, il dit, enfin l'implicite c'est que pour voir, il faut toucher. Ça m'a assez fasciné. Et donc ce Vézal qui est très 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 important puisqu'il a produit un traité qui est aussi déterminant que les traités de Copernic par exemple, qui est le premier à vraiment déployer le corps humain. Je n'en avais jamais entendu parler, même dans mes études par exemple. Et je me suis demandé mais pourquoi ? Alors pourquoi est-ce que l'anatomie qui est si importante, enfin c'est ce qu'on est, c'est notre corps, pourquoi est-ce qu'on nous en parle pas ? Et donc j'ai commencé mon enquête comme ça.
Ah oui, avec plusieurs questions. On reviendra sur les autres questions qui sont à la base de cette enquête, parce que on disait c'est le roman de quoi ? Donc c'est le roman de cette femme qui s'interroge sur le don des morts aux vivants, avec toutes les majuscules et les pluriels qu'on veut. Mais c'est aussi le roman d'une enquête. C'est comme ça que vous l'écrivez, Hélène Giannichini. Beaucoup dans Paris, beaucoup aussi avec cette ville, presque amoureusement avec cette ville-là. Là encore, c'est parce que tout était à Paris ou parce que vous aviez aussi quelque chose à faire avec Paris ?
Il y a beaucoup de choses à Paris. Il y a quand même plusieurs villes qui traversent le texte. Il y a Lausanne, il y a Bâle, il y a Marseille, il y a un peu Florence. Mais c'est vrai que Paris étant aussi l'endroit où je vis, c'est un endroit que j'ai constamment envie d'explorer. Et il y a comme des strates, en fait, dans Paris. Quand j'ai commencé à m'intéresser, par exemple, à la morgue, moi, c'est passionnant de voir où est-ce qu'elle est dans Paris, la façon dont elle a bougé. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi que ça veut dire de marcher dans une ville en cherchant quelque chose, ou un savoir qui, tout d'un coup, est dans un espace, ou traverse un espace.
D'ailleurs, c'est un livre qui vous fait vous déplacer, en effet, et quitter Paris. C'est un livre par l'enquête. La narratrice est elle-même celle qui va bouger à la recherche de savoir, d'images, de tableaux, c'est un livre qui va lui donner un peu de vitesse, quoi, d'une certaine manière.
Oui. Et je pense que là, il y a quelque chose de la... Enfin, la narratrice et moi, on se ressemble à ce moment-là.
Mais non.
Parce que moi, je fais ça. Enfin, je découvre Vézal. Je dis, bon, bah, je le connais pas. Je cherche tous les livres que je peux trouver sur Vézal. Je vois que le premier squelette qu'il a ouvert est à Bâle. Bon, bah, je vais à Bâle. Enfin, j'ai quelque chose d'assez... comme un immense premier degré, en fait. Et puis après, je vois qu'il y a autre chose dans telle ville et je le suis, en fait. Donc l'enquête, elle se passe comme ça. C'est un peu les objets qui décident. Et j'aime bien. C'est là où c'est un peu différent d'une démarche, de ma démarche universitaire. Il y a quelque chose, paradoxalement, d'aveugle dans l'écriture. À un moment, je savais que c'était Vézal, que c'était lui qui allait me donner le livre. Donc, je l'ai suivi, quoi.
Et à l'aveugle, ouais. Mais aussi un peu comme on dit l'amour en aveugle, quoi. Il y a quelque chose, quand je dis de très amoureux, c'est, je le dis à l'égard de Paris, mais finalement c'est à l'égard aussi de des livres que vous ouvrez, des découvertes que vous faites. Il y a un émerveillement quasi amoureux de ça, même si on est au milieu des corps morts, des corps quasi décomposés, ou dans le formol ou au verre. C'est pas jovial, mais c'est assez émerveillé.
Oui. Parce que je demande aux livres, aux images, aux tableaux, de me sortir de la sidération, et ils le font. Enfin, et ça, c'est assez extraordinaire. Enfin, l'idée de ce livre aussi, c'est de réussir à penser l'impensable, en fait, la mort des gens qu'on aime, et plus que la mort, le corps mort des gens qu'on aime. Et vraiment, l'histoire de la médecine, les gravures d'anatomie permettent ça.
Parce que c'est du savoir?
Parce que ça permet une forme de distance, un pas de côté, et qui est nécessaire pour être finalement au plus proche de l'objet qu'on cherche, en fait. J'avais besoin de ça pour sortir de mes émotions ou de la violence de certaines émotions. Parce que, bon, je m'étais... Un des points de départ de ce livre, c'est de se dire que quand on perd des gens qu'on aime, ça a été, en tout cas pour moi, une des expériences les plus brutales et en même temps déterminantes de ma vie. Et en même temps, en littérature, je ne sais pas si c'est très intéressant. Et comment est-ce que je fais pour décaler, pour déplacer ça ?
Parce qu'en même temps, vous dites que ce n'est pas très intéressant, et en même temps, c'est avec cette question que vous arrivez à la littérature, enfin, que vous faites de la littérature, donc il faut que vous trouviez un chemin.
C'est ça. Et c'est le... Mais le chemin peut pas... Je me suis rendu compte que cette chose extrêmement singulière, enfin, qu'on a mal quand on perd quelqu'un, cette expérience du deuil, on a l'impression qu'on a eu mal comme personne n'a eu mal avant nous, et en même temps, on se rend compte aussi que si... enfin, tout le monde vit ça, ou presque tout le monde, à un moment de sa vie. Donc comment est-ce qu'on... Déjà, comment est-ce qu'on arrive à trouver une langue pour le dire? Des mots qui soient pas des mots qu'on ait déjà entendus sur le deuil, parce que c'est quand même des endroits qui, où la langue n'est plus vraiment la nôtre, quoi. Il y a, on a des expressions toutes faites. Et comment est-ce qu'on fait pour retrouver une justesse même de la, des sensations, des moments vécus?
J'avais trouvé que la mort de mon frère était tellement énorme que pendant des mois, j'ai cherché quelque chose d'énorme à faire pour, célébrer sa disparition. Je trouvais qu'on n'allait pas s'en sortir avec des fleurs et des vêtements noirs, que ça ne suffisait pas. Et lorsqu'on a dispersé ses cendres dans la Méditerranée, dans un endroit où on avait été follement heureux ensemble, d'abord, les cendres se sont un peu collées à nos lunettes et je me suis dit « génial, je vois avec ses yeux ». Et puis après, c'est vrai que j'ai plongé dans la Méditerranée et j'ai eu l'impression de faire quelque chose d'un peu... scandaleux, et en même temps d'être vraiment avec mon frère. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut vivre avec les morts en bonne compagnie, pour qu'ils nous rendent vivants, pour qu'ils nous rendent libres. Mon frère m'a rendu très libre, je pense, et pour qu'ils nous rendent debout.
C'est la voix d'Olivia de Lamberterie. En 2018, elle parle donc du début, du processus d'écriture de son texte où elle évoque la perte de son frère. Dans un premier temps, elle dit qu'elle cherche un geste à faire à la hauteur de l'énormité qu'est la disparition de ce frère aimé. Est-ce que vous pensez, Hélène Giannichini, qu'il y a quelque chose qui se pose comme ça dans l'équation de votre propre livre ? Il faut comme être à la hauteur du choc.
Oui, c'est même troublant. C'est exactement une question que je me suis posée. Et pour moi, la réponse, c'est faire qu'un cheval se jette dans la Seine avec son cavalier. Puisque dans le livre, la narratrice assiste à cette scène. Elle voit sur le pont de Sully un cheval qui se précipite dans la Seine. Et pour moi, cette scène-là, qui est quand même extrêmement violente, parce que le cheval met du temps à tomber, enfin, plusieurs pages en tout cas, c'est transposer le choc d'une annonce de la mort de quelqu'un. C'est ça, c'est la mort de telle personne. C'était comme voir un cheval se jeter dans la Seine avec son cavalier.
Mais il faut la trouver, cette équivalence, où elle vient à l'aveugle, elle vient un jour, elle se présente.
Les deux. Enfin, il faut... Elle s'est présentée à moi sur un chemin très quotidien que je faisais. Et en même temps, après, il faut aller la chercher dans l'écriture.
Oui, parce qu'en plus, vous faites une sorte de... histoire littéraire de cette vision, c'est-à-dire la manière dont les chevaux apparaissent dans ce texte et dont cette image traumatique vient comme peser dans la balance et faire l'équilibre presque avec le choc de la disparition des proches de la narratrice. Après, vous vous dites, tiens, c'est quoi ce truc d'un cheval qui se jette dans un fleuve? Et c'est tellement gros, et vous en restez pas là encore à la sidération. Vous allez voir du côté de Clarice Lispector, vous allez voir qu'est-ce que c'est que des chevaux qui apparaissent comme ça dans un texte.
Oui, dans l'image aussi, sur la chronophotographie, comment est-ce qu'on peut déployer ce moment de la chute
Avec Muybridge, peut-être oui. On peut dire deux, trois mots de ces images qui sont comme ça, des espèces d'ouvertures du mouvement, comme si on pouvait genre prendre les côtes de quelqu'un et d'ouvrir le corps, c'est un peu ça que fait Muybridge avec les photographies.
Oui, là-bas, ça, la chronophotographie, c'est décomposer le mouvement. Donc, c'est les premières chronophotographies sont faites justement pour comprendre le galop du cheval. Et donc, c'est sur une même planche. Bon, il y a plusieurs formes de chronophotographie, mais sur une même image, décomposer toutes les étapes du galop d'un cheval et voir d'ailleurs qu'il y a un moment où il ne touche plus le sol.
Trop
et
bon.
Il vole.
C'est trop beau. Et après, ce que dit Olivier de Lamberterie, c'est... En fait, il faut se poser la question de comment on va vivre avec ses morts, comment on va vivre en bonne compagnie, comment est-ce qu'ils nous tiennent debout. C'est aussi une question qui agite votre texte de toutes parts. La romancière, elle se la pose au premier degré, en fait. Comment je peux faire ?
Oui, et bon, je pense que lire des textes et s'approcher de ces images, c'est une première façon. Ensuite, il faut, bon, faut qu'elle, disons qu'il y a plusieurs moments dans le livre, il faut qu'elle arrive à intégrer cette nouvelle, disons, de la mort.
Qui prend du temps.
Ce qui prend la moitié du livre même. Ensuite, ils apparaissent. Enfin, avec le cheval dont on parlait, les morts reviennent, mais transformés. Enfin, c'est des présences avec lesquelles elle peut être plus sereinement. Et une des réponses, comment vivre avec ses morts, c'est leur trouver une place, là aussi, au sens de manière littérale, des lieux, en fait, où les mettre, où les laisser tranquilles aussi. Je crois qu'il faut absolument laisser aux morts une forme d'opacité. Il faut les laisser être, il faut se méfier de... Faut pas parler à leur place, en fait. Et c'est ça qu'elle cherche ensuite dans la seconde partie du livre. Et donc des lieux qui vont aller jusqu'à être son propre corps, qui va être un lieu pour abriter les morts.
Ça me fait penser quand même à tout le travail que vous avez fait à partir de, des bribes de journaux d'Alix Cléoroubeau et d'une partie de l'héritage photographique que vous avez eu à votre charge de trier, d'archiver. À un moment donné, dans le texte que vous aviez écrit, une image peut-être vraie, à propos d'Alix Cléoroubeau, vous basculiez vers l'opacité, en disant il n'y aura pas de, il n'y aura pas de clarté possible sur cette femme qui donc était... photographe, elle écrivait aussi, oui. Et compagne pour un temps en tout cas du poète Jacques Roubaud. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui était presque en préparation dans votre pensée, Hélène Giannichini, que même à s'approcher très fort ou très proche des morts, en réalité ce qu'on y trouve c'est une opacité qu'il faut laisser telle qu'elle.
Oui, je crois. Je crois que c'est ce que Alix Cléoroubeau, en tout cas, m'a donné. Je n'aimais pas du tout, quand j'ai commencé à travailler sur elle, le fait que les gens se l'approprient. Et tout d'un coup, s'adressent à moi avec une forme de vérité, en me disant, elle était comme ci, elle était comme ça. Là, j'en ai rencontré tellement qu'ils disaient des choses contradictoires au bout d'un moment. Et puis, j'avais lu suffisamment de textes d'Alix Cléoroubeau pour me dire qu'elle n'aurait pas beaucoup aimé être comme ça résumée ou réduite. Par les gens qu'elle avait côtoyés. Et de la même manière, parfois quand les gens disparaissent, on a envie de dire « Oh, il aurait ou elle aurait adoré ce moment, adoré telle personne, adoré tel plat. » Mais en fait, on ne sait pas. Et je crois que si on parle à leur place, ou si on les fait parler, si on les parle presque, on les fige, enfin, ils meurent encore plus. Je pense qu'une façon d'être avec ses morts, c'est de presque de pas trop en parler. On peut un peu leur parler, mais il faut pas trop en parler ou parler à leur place.
En fait, la mort, c'est quelque chose qui était très réel par le passé. Les morts mouraient dans les maisons, on les veillait. Souvent, c'était un proche qui nettoyait le corps, qui l'habillait. Donc, la mort était extrêmement concrète. Puis, à partir du moment où la mort a été médicalisée, elle a été mise à distance. Et les gens se sont mis à mourir dans les hôpitaux. Donc, c'est le personnel soignant qui s'est mis à préparer le corps, qui n'était plus du tout touché par les gens, puis qui n'était même plus vu par les gens. Et après, la cérémonie est souvent avec un cercueil fermé, ou alors c'est des cendres, parce que c'est une crémation. Donc on ne voit plus le mort. Et ouais, je me demande si on n'est pas... En fait, oui, effectivement, la mort, c'est peut-être ce moment qui... Un des rares moments qui vient déranger, chambouler nos vies et qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a plein de moments où on se dit « Ah, cet événement-là dans ma vie pourrait me faire mal, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'avoir mal. J'ai pas le temps de sortir de ma productivité ou de... Et la mort, on n'a pas le choix. »
France Culture, Par les temps qui courent, Marie Richeux avec Hélène Giannichini.
ma peau est de lune, mes yeux sont des dunes qui regardent encore, et je tombe au ciel. Tombe au ciel. Mes yeux sont devant, mes rires sont des fleurs qui jamais ne meurent, et je tombe au ciel. Je tombe au ciel.
Musique de Babix et ses musiciens pour cette première partie d'Omaya, tout un disque qu'on pourrait d'ailleurs considérer comme une sorte de tombeau à l'envers, tant il est question de ciel, d'alpinisme, de regard amoureux, à la fois tendu vers une femme aimée, à la fois tendu vers une femme morte. Je relevais en l'écoutant là des yeux morts qui regardent encore Hélène Giannichini, qui nous renvoie peut-être au titre de votre livre qu'on évoque ce soir, voir de ses propres yeux. Mais avant de commenter ça, on entendait juste avant la voix d'une romancière, Céline Huygert, qui était venue ici nous parler d'un texte en lien avec la perte de son père. Et elle disait, en fait, nos corps n'ont plus de mort. C'est très récent, mais on les voit plus. Et dans votre texte, vous écrivez, la narratrice s'adressant à ses morts dit, vous n'avez jamais eu plus de corps qu'en mourant, comme s'il y avait quelque chose qui se matérialisait, quoi. Par la disparition, non, mais par le décès.
Oui, la matérialité du cadavre est quelque chose qui est assez, c'est assez vertigineux, en fait. On sent le poids, la densité d'un corps, particulièrement quand il meurt et quand on se pose la question notamment de la décomposition. La narratrice évoque notamment les body farms un endroit au Tennessee qui dépend de l'université, où on laisse des corps se décomposer
pour voir comment
ce qui se passe. Et la photographe Sally Mann a fait une série dans cet endroit-là où elle prend des photographies très belles d'ailleurs de ces cadavres, de ces corps qui font des choses assez extraordinaire, en fait. Et ça devient, on dirait, parfois des plantes, des pierres. Enfin, il y a quelque chose de végétal qui se passe. En tout cas, même en écrivant ce livre, pour moi, je me suis posé la question de mon propre corps, du devenir de mon propre corps, comme je ne me l'étais jamais posé avant. Et ça, c'est une forme de paradoxe, puisqu'on pense que la mort, c'est justement la disparition du corps. Ben, avant qu'il disparaisse, il est très très là, quoi.
Il est très là et dans un drôle d'état. Enfin, dans un... Mais je dis drôle, parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, je trouve ça un peu marrant. Je trouve que c'est un peu marrant de penser à ça parce que c'est tout à fait dédramatisé. De toute façon, t'es mort. Donc, en fait, c'est plus le moment d'être triste. Et donc, il se passe une espèce de vie après la mort du corps en décomposition. Je trouve ça assez drôle.
Oui, il y a plein de livres qui racontent ça. Alors, drôle, c'est, enfin, je préfère drôle qui est esthétisant parce
oui,
que.
Oui, non, mais c'est drôle que j'utilise. C'est vraiment drôle aussi au sens de, du drôle bizarre, du drôle de la métamorphose, en fait.
Oui, et de la charogne, il y a du zombie dedans. Enfin, il y a des choses en fait qu'on est assez habitué à voir, même quand on regarde des séries, par exemple, on voit plein de zombies. Tandis que quand ça devient réel, on n'est pas du tout habitué, on a très peur. Parce que en même temps qu'il y a ce corps très présent, j'ai repris un peu les travaux de Philippe Ariès, de l'historien Philippe Ariès, qui dit qu'il y a une inversion des tabous jusqu'à un certain moment. Ce qui était insoutenable, c'était le corps sexuel désirant. Et maintenant, pour nous, c'est le corps mort. On n'a aucun problème à voir des corps faire l'amour, mais un cadavre, c'est intolérable. Et en fait, il dit, et ça c'est assez intéressant, que c'est la même chose. Que la morale ou le tabou est finalement le même. C'est comme l'envers et l'avers d'une même pièce. Il n'y a pas d'évolution. On est au même point qu'il y a un siècle ou 50 ans.
C'est-à-dire à quel point ?
Un point où on a du mal à considérer vraiment le corps.
Oui, c'est au point du corps en fait, c'est oui, finalement c'est... ça, c'est-à-dire mort ou jouissant, c'est le corps qu'on veut pas voir.
Oui, ça nous fait peur quoi. On a besoin de le tenir à distance. Et bon, pour le corps mort, j'ai travaillé sur la morgue et je me suis rendu compte qu'il y a des guides de Paris au 19e siècle. Déjà, la morgue était un des bâtiments les plus visités à Paris et les gens viennent le midi avec un sandwich, avec leurs enfants, regarder des noyés. Et c'était il y a très peu de temps et nous, ça nous viendrait pas à l'idée. Enfin, des parents qui emmèneraient leur enfant de 4 ans regarder des noyés à la morgue en pique-niquant, enfin, ça serait immédiatement, la DAS serait immédiatement appelée. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé quand même en si peu de temps pour que ça soit insupportable de voir des corps morts? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut voir? Est-ce qu'ils peuvent nous rendre plus libres? Est-ce qu'il y a quelque chose de politique aussi dans ces corps-là? Alors, je ne saurais pas trancher exactement, mais je crois qu'en tout cas, oui, on doit essayer de voir de nos propres yeux. C'est aussi ça le titre du livre. De se tenir un minimum droit face à la mort.
Mais puisque vous dites que c'est l'avers et l'envers d'une même pièce, finalement, est-ce que la question de la vision du corps sexué nous apprend des choses? Est-ce que ces corps sexués devenus visibles, et encore à certains endroits et d'une certaine manière, quoi, et l'expérience, on va dire, sociétale et collective de ça, nous apprend des choses de ce que ça pourrait être que de regarder un peu plus droit dans les yeux, ou plutôt de ses propres yeux, ce qui n'est pas exactement la même chose, des corps morts?
En tout cas, un corps, ces corps-là, si c'est pas normé, je veux dire aussi par une certaine industrie, enfin, on pourrait pas dire que regarder des films pornographiques nous apprend à regarder des cadavres, enfin, si on résume, mais regarder des corps humains qui dérogent, en fait, aussi à une certaine norme, à une certaine tenue, enfin, on nous apprend à nous tenir depuis qu'on est tout petit. Quand le corps échappe à ça, oui, à mon avis, il y a quelque chose de commun, enfin, on peut tirer une forme de fil du corps jouissant ou du corps qui se métamorphose jusqu'au corps mort, vous l'avez dit, où il y a une forme de métamorphose qui est en jeu. C'est un corps qu'on ne reconnaît pas, qui est changeant, qui est un corps qui ne se tient plus aussi.
Et donc qui ne répond peut-être pas aux différentes injonctions, puisque vous dites qu'il y a peut-être aussi une pensée politique dans tout ça. Hélène Giannichini, on entendait Céline Guguère dire finalement la mort c'est le seul truc qui t'oblige à arrêter de produire, qui t'arrête. Vous disiez, il y a la sidération, mais il y a aussi l'idée que, dans la plupart des cas, on va dire, c'est la seule souffrance par-dessus laquelle on n'est pas apte à passer, même si on doit rendre un dossier, même si on est jusqu'au cou englué dans le dynamique capitaliste. Mmh. Est-ce que ça aussi, l'aventure que vous écrivez, l'aventure romanesque dans laquelle se lance cette femme, c'est l'idée que, en fait, la mort, ça a arrêté son train, quoi. Ça a arrêté son TGV, en fait.
Oui, bah, quand elle dit qu'elle est pulvérisée, il y a ça aussi, il y a son quotidien. En fait, ce roman, il s'écrit dans une forme de vacances. Mmh. La narratrice dit à un moment qu'elle doit retourner travailler, mais on ne sait pas exactement ce qu'elle fait. En fait, tous les signes de nos vies quotidiennes sont effacés du roman. Elle, c'est quand même une femme qui se consacre à vivre cette expérience ou cette confrontation avec la mort.
Suivant les indices, quoi.
C'est ça. Prenant son temps. Il y a aussi une forme d'oisiveté. Enfin, elle dit qu'elle fait rien, parfois une semaine, qu'elle lit un peu vaguement dans son lit. Enfin, et ce temps-là, ce temps long de la mort, oui, je crois aussi qu'il y a quelque chose qui s'installe et qui peut nous donner une forme de liberté. Ne serait-ce que pour réfléchir, en fait, et pour penser ce qui se passe quand quelqu'un disparaît. Après, je pense qu'il faut se méfier. Enfin, j'ai pas envie tout d'un coup que ce livre semble être une ode à la mort ou au deuil en disant qu'il s'y passe, que tout d'un coup on devient libre et politique. Et il y a aussi quelque chose de terrible qui se passe là, évidemment. Mais en tout cas, je crois qu'il faut pas balayer d'un revers de main.
C'est ça qui s'y passe peut-être de libre et politique, c'est juste le temps. Et après tout, vous écrivez l'histoire singulière d'une femme qui se l'accorde ou à qui la mort l'accorde. Vous n'en faites pas une généralité, vous ne dites pas pour tout le monde, ça va être super, vous allez pendant des mois vous promener en Europe à suivre des penseurs de la Renaissance. C'est cette femme que vous faites libre par l'écriture.
Oui, parce qu'elle essaye de trouver sa solution, quoi, et sa langue aussi. Pour dire ce qui se passe.
Il faut des yeux pour voir, certes, et lorsque ces yeux s'ouvrent sur le monde, quelque chose de l'image était déjà mis en place, qui fera ou ne fera pas du sujet qui voit le sujet d'un regard. C'est donc de l'histoire du sujet imageant que je parlerai pour comprendre progressivement comment ce sujet devient ou non un sujet qui voit, qui dit ce qu'il voit, en faisant progressivement un usage imageant de l'organe qui s'appelle la vue. Autrement dit, mon hypothèse est que l'image et la condition de la visibilité elle-même pour un sujet parlant.
Beau. C'est presque un remix de l'émission L'éloge du savoir grâce à ce nouvel extrait du disque Ascension de Babix. On entendait la voix de la philosophe Marie-Josée Monzin dans donc une émission diffusée sur France Culture en 2004. Éloge du savoir, on sent bien qu'elle est au début de ses conférences. Elle pose quelques hypothèses, dont une hypothèse assez forte. L'image est la condition de la visibilité pour un sujet parlant. Je cherche à savoir, je cherche à faire émerger un sujet qui voit et qui dit ce qu'il voit. Soit Hélène Giannichini, un sujet qui pourrait voir de ses propres yeux, c'est le titre de votre roman. Tout à l'heure, vous disiez finalement, c'est une femme qui cherche sa solution. On entend bien là qu'il est question d'un sujet, qu'en fait, ça n'aura, on va dire, presque d'efficacité dans cette histoire de rapport avec les morts que quand elle pourra voir avec ses propres yeux.
Oui, et ce qui coïncide avec cette recherche dans la langue, trouver ses propres mots pour dire ce qui se passe. Et là, l'image nous sauve, en fait. En tout cas, l'image, moi, me sauve. Et j'étais...
Pourquoi ? Parce que quoi ? Pour ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est depuis l'image que je vais écrire et c'est entouré d'images, même à mon bureau, concrètement.
Parce que écrire avec des images, c'est aussi d'écrire. Et d'écrire, c'est une aventure littéraire qui est extrêmement complexe et difficile et passionnante. Et exigeante aussi, c'est ce que j'avais pu expérimenter avec Alix Clérubeau. C'est extrêmement difficile de décrire une image. Et ça se fait pas à pas, très lentement. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Mais on trouve des choses dans cet exercice, par exemple, de la description d'une image. Et moi, en me confrontant aux images, j'ai aussi... Oui, il y a un chemin qui s'est dessiné. Marie-Josée Monzin, je suis très heureuse de l'entendre. C'est quelqu'un qui est très important pour moi, pour ma pensée.
On peut dire en quelques mots l'essence de ses grandes œuvres de travail et de pensée.
Ben, disons qu'elle pose la question de politique du regard. Qu'est-ce que ça fait de regarder une image et toutes les images ne sont pas les mêmes. Et ce qu'elle dit, et qui a été assez important pour moi, c'est qu'il y a des images qui, comme là elle l'explique, nous rendent libres, je paraphrase, permettent justement d'être ce sujet parlant, et il y en a d'autres qui nous coincent. Et ça, j'ai éprouvé les théories de Marie-Josée Monzin, notamment en regardant la série d'Andrés Serrano qui s'appelle La Morgue. Donc c'est le photographe Serrano photographie des corps morts de très près, donc c'est des gros plans sur des cadavres. Et c'est des photographies qui sont extrêmement belles, des photographies en couleur, on dirait des tableaux. Et en même temps, face à ces images, moi je me suis sentie coincée. Il y a quelque chose d'insoutenable. Parce que je crois qu'elles sont tellement fortes, elles sont tellement belles, trop belles, qu'on ne peut plus parler et qu'elles nous réduisent au silence. Et distinguer les images, c'est quelque chose que Marie-Josée Monzin m'a appris à faire dans ses livres, en fait. Voilà, les images qui nous laissent parler et penser et d'autres qui nous rendent muets.
Et donc ce serait ça, voir de ses propres yeux, ce que dit ce titre de roman ? Qui est presque aussi comme une sorte de programme.
Oui, voir de ses propres yeux, c'est l'idée de plonger dans l'image, de travailler son regard. Enfin, je crois qu'un regard, ça se travaille comme on travaille la lecture, l'écriture. Regarder le monde, les choses, les images, c'est le travail d'une vie. Et pour ça, il faut s'immerger dans les images et aussi voir de ses propres yeux, c'est le déploiement d'autopsie qui signifie voir par soi-même en fait. Donc ce roman, c'est une longue autopsie étymologiquement. Je regarde, j'essaye de voir par moi-même les corps, les images, la mort aussi quand elle arrive.
Visage qui vire la lumière d'il y a 150 000 ou 3 millions d'années et dont les yeux se rouvriraient dans un atelier de sculpture. Visage de ressuscité brûlant sur le fond d'or des icônes et qu'interrogerait un peintre de visage, mais de visage d'ange déchu. Visage de criminel, tel que le verrait son juge s'il se trouvait qu'il était peintre. Visage d'une famille où depuis plusieurs générations on s'entrepeindrait et que ce jeu de réciprocité pérenniserait. Visage d'une jeune fille dont le mouleur aurait pris l'empreinte sur le carreau de la morgue il y a 100 ans et qu'un conservateur de musée improbable aurait eu l'idée de réunir à d'autres masques, à d'autres visages, dans une sorte de galerie de portraits ultimes. Ce serait autant de regards. Et comme les feuillets détachés du carnet d'un amateur de visage, autant de perspectives ouvertes sur le vieux mystère de la face humaine.
Thank you. À la fin du 19e siècle, le corps d'une jeune noyée est apporté à la morgue quand le bâtiment était encore sur la pointe de l'île de la Cité. Ses chairs n'ont pas gonflé ou bleui. Elle est miraculeusement intacte et semble être morte dans une paix étonnante. Ce qui surprend le médecin légiste qui réceptionne le cadavre, avant même la beauté de la jeune femme, c'est son air apaisé, ce sourire fugace qui aurait été impossible à photographier, mais qui s'est miraculeusement figé sur elle. Elle est morte avant que son expression ait eu le temps d'affleurer entièrement à la surface de ses traits, et il semble au légiste qu'à tout moment elle pourrait terminer son mouvement, étirant ses commissures, dévoilant ses dents pour faire entendre son rire. Il est captivé. Il n'a jamais vu de noyée comme elle, sans rictus, avec les paupières à peine closes. Il ne savait pas que la mort pouvait être subtile. Oui, c'est ce mot qu'il choisit et prononce à voix haute en face du corps. Subtile. C'est une tête tout en nuances, difficile à saisir tant elle semble changer à force d'être regardée. L'asphyxie ne l'a pas inquiété. Ce n'est pas un cadavre qu'il a installé sur cette table, pas une femme endormie non plus, mais une personne soustraite, présente, mais opaque. Quelque chose résiste. L'inconnu de la scène demeure impénétrable et il n'y peut rien. Il aura beau l'ouvrir, détailler son corps et ses organes, il ne saura jamais d'où vient sa quiétude. Il décide alors de voler son image en prenant son empreinte.
On entend Hélène Gianchini, un extrait de votre texte « Voir de ses propres yeux » et juste avant, la voix de Jean Pietri lisant probablement son propre texte dans l'émission « Surpris par la nuit » en 2002, diffusée sur France Culture. Cette recherche autour des visages comme ça qui apparaissent et l'énumération jusqu'à peut-être fait-il mention lui aussi du visage de l'inconnu de la scène. Il y a comme ça plusieurs apparitions dans votre livre. Quelle place tient celui de cet inconnu?
Ben c'est une image que j'avais tellement croisée, en fait, dans les livres, l'inconnu de la scène, parce qu'il y a les surréalistes l'ont photographié, Rilke en parle, Nabokov en parle. Quand on fait des études d'histoire de l'art, à un moment, on est forcément confronté à l'inconnu de la scène. Mais je m'étais jamais posé vraiment la question de qui elle était, comment ce visage était venu jusqu'à nous. Et c'est quand j'ai retravaillé sur cette idée que dans le terme même d'image, il y a les morts, puisque image, ça vient d'imago, et ça désigne le masque en cire qu'on coulait sur les morts. Je me suis dit, bon, bah, c'est une image par excellence, en fait, cet inconnu de la scène. Je vais essayer de comprendre qui elle est. Et quand on la regarde, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement troublant, parce qu'elle n'a pas l'air morte. C'est une belle morte, Aragon le dit. Et il y a quelque chose, elle nous refuse quelque chose, l'inconnu de la scène. On ne sait pas, et je pense, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. C'est pour ça que tant d'artistes et d'écrivains ont projeté, en fait, ont projeté sur elle. Et j'ai été fascinée par ces visages de cire, par cette pratique. Nous, on ne connaît pas ça, mais je me suis dit, mais si j'avais été une Romaine, par exemple dans l'Antiquité, j'aurais pu couler de la cire sur le visage de mes morts, j'aurais eu cette empreinte que j'aurais gardée chez moi, et donc, je sais pas, quand j'en aurais eu envie, plusieurs fois par semaine ou par mois, j'aurais ouvert une chasse dans mon salon, je transpose un peu, c'est pas anachronique, et j'aurais vu vraiment les visages de ceux que j'aimais. C'est incroyable, en fait. Comme la photographie est pauvre, en fait, à côté de ça. Et ensuite, j'ai découvert, et ça a été vraiment un choc, un historien de l'Antiquité, Polybe, qui raconte que ces masques, pour ces imagos, enfin ces imagines, pour certaines cérémonies, eh bien, les Romains les portaient. Donc, on demandait à des membres de la famille de prendre le visage de leurs ancêtres morts et de les incarner pour accompagner le jeune mort, disons, vers l'au-delà, dans son autre vie. Et ça, c'est assez extraordinaire. Si on imagine, si on le transpose pour nous, pour nos histoires, qu'est-ce que ça voudrait dire aux prochaines obsèques auxquelles on doit assister, de voir tous nos morts, tous nos ancêtres ressuscités, leur visage, en fait, réanimé par des vivants. J'aimerais bien voir ça.
Non, mais ce que je me dis, c'est qu'en fait, vous n'allez pas le voir, probablement, parce qu'on est tellement loin de ça. Mmh. Et quand je dis « on », c'est un « on » très géographique, en fait, quand même, Hélène Dialenchini, parce qu'il n'y a pas très longtemps, je pense à Nastasia Martin, qui était venue ici nous parler de croire aux fauves et de toute sa rencontre avec aussi la pensée des morts et des vivants au Kamchatka, mais je pense aussi à Bérangère Cournu, je pense à toutes ces histoires qui ne sont pas des histoires du passé, qui sont des histoires du présent, où en fait ces pratiques existent, cette manière de faire exister formellement par les dires, mais aussi par des masques, par de la matière, les morts chez les vivants chez les morts, etc., etc., agiter tout ça et ça avait bien frais. Nous, on est hyper loin.
Oui. Et c'est dommage. Je crois que...
Ou en Chine, ou, je sais pas, à Singapour, moi, j'ai souvenir de une soirée des morts à qui on allait faire un peu de théâtre, leur offrir des choses à manger, comme ça, pour festoyer, pour qu'ils soient contents, que ensuite ils rentrent bien chez eux et qu'ils reviennent pas trop souvent nous hanter...
Même dans le sud, encore maintenant, dans le sud de l'Italie, il y a pour la fête des morts, les morts apportent des gâteaux et des fruits aux enfants. Et donc ils attendent avec impatience cette fête des morts et ça permet aux parents de leur raconter des histoires sur leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Et je pense qu'il y a une grande intelligence là de la mort, dans cette matérialité de dans d'autres cultures, ou même pas si lointaines que nous, le fait qu'ils existent, qu'ils soient proches de nous, qu'ils nous donnent des choses, parce que pourquoi est-ce que nous, on a besoin de les mettre tellement à distance? Même, par exemple, la photographie post-mortem, qui était une pratique encore courante au XXe siècle, a complètement disparu. Et j'ai présenté le livre il y a un mois dans une librairie, et une femme racontait qu'elle a photographié tous les gens qu'elle aimait qui sont morts sur leur lit de mort. Parce qu'elle avait envie d'avoir ce dernier portrait. Et une grande partie de l'assemblée était plutôt horrifiée. Je trouvais ça que c'était vraiment, vraiment bizarre déjà de faire ça. Et pas bien. Il y avait quelque chose de moral aussi dans leur jugement. C'était vraiment bizarre de photographier ces morts-là. Donc pourquoi est-ce que ça va si vite cet effacement? Il y a quelque chose qui s'accélère. Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on refuse? Et pourquoi?
Ça veut dire aussi que pour la narratrice de votre roman, cette solution, elle est forcément un peu solitaire. C'est-à-dire que face à l'absence et à l'effacement de ces morts-là, quelle que soit la forme que pourrait prendre leur présence et cet effacement rapide, ben, on sent bien que vraiment, faut que ce soit elle, et encore voir avec ses propres yeux, mais elle, toute seule, dans son coin, avec son temps, avec le secours de l'histoire de l'art, du savoir et tout ça, mais que ce sera sa solution singulière et c'est tout.
Ben, je sais pas, parce qu'en même temps, elle reçoit un peu d'aide d'écrivains, de poètes, qui lui donnent des mots, qui l'aident quand même, qui dessine, qui l'aident à dessiner son chemin. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très aidé, je trouve, on n'est pas très préparé, on n'est pas très aidé quand on est face à un cadavre. Et c'est pour ça que c'est pas tant que c'est sa solution à elle, c'est pas pour affirmer une individualité, mais c'est parce que c'est aussi une forme de pudeur ou de modestie. En tout cas, c'est comme ça qu'elle fait, elle, parce qu'elle sait pas faire autrement, parce qu'on lui a jamais appris et qu'on lui a jamais montré.
Et aussi qu'il n'y a pas beaucoup de solutions collectives qui circulent.
Oui.
C'est en ça que je dis sa solution à elle, c'est qu'elle est bien obligée. Quand bien même elle n'y aurait pas d'aspiration à la solitude et à la pudeur, en fait, il n'y aurait pas de théâtre des morts collectif qu'on pourrait lui proposer au cimetière du Montparnasse ou à Montrouge, quoi.
Ouais, non, ça n'existe pas. Et du coup, la solitude est terrible, je trouve, quand ça se passe. On aimerait pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont vécu la même chose, avoir des moments, des rites. À la fin du livre, elle en invente un avec ses amis et ses proches. Elle ingère les cendres d'un mort. Et c'est une façon de retrouver du rituel. Ça a une fonction.
vous n'entamez pas ma solitude, vous la justifiez. Je vous ai placé au sommet des montagnes, dans des boîtes, à la surface des lacs ou dans les interstices des façades pour vous singulariser et vous assurer une indépendance. Mais vous savez aussi que mon endroit vous est toujours ouvert, que je travaille autant à le circonscrire pour qu'il vous soit accueillant et que nous puissions être ensemble dans cet entre-deux, cette incertitude que revêtent désormais vos présences. Je suis quelqu'un des lieux, oui, mais ceux-ci sont plein d'autres espaces, minimes et insaisissables, parfois provisoires, que vous venez investir. Chacun d'entre vous décuple les pièces de ces maisons où je m'installe en y créant des recoins inattendus, en faisant parfois bouger l'axe d'un mur. Vous rendez mon isolement mouvant, imprévu. Vous aussi savez me destiner des lieux. On a commencé, Hélène Dianecchini, en parlant de ce que les morts peuvent donner ou ce que la mort peut donner à la vie et aux vivants. Et on termine avec la fin de votre roman où finalement les morts apportent des lieux possibles à la narratrice. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voir de ses propres yeux et publié au Seuil. À la prise de son ce soir, c'était Jean-Michel Bernot. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain Debecq de Lièvre, Marianne Chassor et Julie Ascal. C'est aussi une page Par les temps qui courent sur franceculture.fr et un podcast auquel on peut s'abonner via l'application Radio France. Dans un instant, 22h sur France Culture, c'est le journal. Très belle soirée à toutes et à tous.